Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau partage. On est tard un petit peu ce soir parce qu'on est à voir notre beau papa JP. Puis on a attendu Hélène, princesse Hélène, puis princesse Hélène est avec nous autres ce soir. On a princesse Nicole. Marilyn, le travail a fini dans une heure. Et moi-même, pour vous servir, on va saluer les gens qui sont sur Internet, les gens de Radio Prédication, les Claire et Nathan qui nous écoutent aussi, et puis tous ceux qu'on oublie. Tous nos auditeurs, la famille Chabot vous salue et vous bénit. Et puis, on va, si vous voulez, prier ensemble. On va remettre ça au Seigneur et puis on va commencer, si vous voulez bien. Ce partage, on n'a pas été là la semaine passée parce que j'avais un congrès à Montréal. Et quand je me suis rendu compte, dans la chambre d'hôtel, j'aurais pu enregistrer dans la chambre d'hôtel. J'avais oublié mon micro. Fait que j'avais pas de micro, fait que finalement, j'ai pas pu enregistrer. Mais c'est ça. Désolé pour ceux qui s'attendaient d'avoir un partage mercredi passé. Mais je pense que je l'avais dit aussi, je l'avais annoncé, là, qu'on avait un congrès, moi et puis Marilyn. On était à Montréal mardi, mercredi, jeudi. Donc, c'est pour ça qu'on a sauté cette semaine. On veut se reprendre ce soir pour ce nouveau partage. Si vous voulez, on va prier, on va mettre ça au Seigneur, on va commencer. Ben, Père, on veut dire merci du privilège qu'on a d'être ensemble ce soir pour étudier ta parole. Seigneur, on veut te présenter nos transgressions. Ce soir, on veut te demander pardon pour nos iniquités, pour nos changements. Pas nos changements, mais nos manquements. Et puis, Seigneur, on va venir se faire laver les pieds ce soir. On veut que tu nous laves les pieds pour qu'on puisse être... qu'il n'y a rien qui nous sépare de toi. Seigneur, on veut te demander pardon pour toutes nos fautes, toutes nos faiblesses dans la chair, toutes nos convoitises. Et puis, c'est en le nom de Jésus qu'on te demande ce pardon. Seigneur, lui qui a payé ce grand prix, que son sang avait été versé pour nous, son corps a été brisé pour nous. C'est en son nom qu'on te demande pardon, Seigneur, pour toutes nos fautes. Et puis, Seigneur, ce soir, on te demande pour que le Saint-Esprit règne dans ce partage, Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner les paroles, l'inspiration, pour que les gens qui écoutent puissent être guéris dans leurs âmes, puissent être restaurés, exhortés, guéris dans leurs blessures qu'ils vivent présentement, qu'ils reçoivent la provision qu'ils ont besoin pour les situations qu'ils vivent présentement, Père. Et puis, on te demande que le Saint-Esprit règne ce soir, dans nos cœurs et dans ce partage, pour que le nom de Jésus soit glorifié par compris. Amen. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier un livre de sagesse, le livre des Proverbes. Et puis comme je vous ai dit, j'ai déjà entendu souvent cette absurdité que l'Ancien Testament c'est plus bon, que maintenant c'est le Nouveau. Ça, c'est comme dire que la parole de Dieu devient désuète. Mais il y en a qui disent ça. J'ai entendu des pasteurs dire ça. C'est très malheureux, parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est ce que la parole nous dit dans Hébreux. Et puis, si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais là, faites-moi grâce, mais c'est vraiment ce que ça dit. Donc, est-ce qu'on peut s'inspirer de la parole de Dieu dans toutes les Écritures, dans tous les livres de la Bible? Certainement qu'on peut, hein, Nicole? Certainement que oui. Et puis, d'étudier les Proverbes, même d'étudier la Genèse. On voit des comportements dans la Genèse. Abraham, et puis toute cette histoire-là, on ne peut que s'enrichir, parce que vous savez que l'homme, l'être humain, il n'a pas changé. Hein? Depuis 2000 ans, c'est pareil. Hein? 2000 ans d'histoire, on va dire des milliers d'années d'histoire, parce qu'il y en a qui disent qu'ils n'ont rien à faire, fait qu'ils se mettent à argumenter ces dates. Mais nous autres, on n'a pas de temps à perdre parce qu'on veut s'approcher de la parole avec un cœur et un esprit ouvert pour être enseigné, pas pour trouver des bébites puis faire perdre le temps aux autres à chercher des poux. Donc, nous, on veut s'approcher avec un cœur bien disposé de la parole. Donc, en partant, on confesse que la parole de Dieu, c'est sa parole, puis tout a été fait que par la parole de Dieu. Hein? Tout ce qu'on voit, là, c'était fait avec la parole. C'est pas rien. Fait que la parole, elle va subsister. C'est la seule chose qui va subsister éternellement dans le monde qu'on vit présentement. Elle va rester. Elle va toujours rester. La parole. Pour ça, quand on étudie la parole de Dieu, c'est la seule chose qui est un investissement éternel dans nos vies. Ça, ça va porter éternellement ce qu'on est en train de faire là. Toutes les choses qu'on fait là, dans le monde, vous savez, c'est très inutile souvent. Tu sais, le temps qu'on perd après nos bébelles ou pour à peu près n'importe quoi. Mais la seule chose qui va porter du fruit éternellement, c'est étudier la parole. C'est ce qu'on est en train de faire là. Étudier la parole de Dieu. Et puis ça, là, ça va porter dans l'éternité. Je viens de recevoir un message de Claire. Parce que j'ai dit que le message sera plus tard. Parce que Claire, elle attend notre partage, nous autres. Elle là, puis elle paye, tu sais, elle clique, voyons, voyons. Es-tu malade ce soir? Puis, tu sais, elle s'inquiète. Fait que j'ai envoyé un message, je lui ai dit, le message va être plus tard, on a attendu Hélène. Donc, elle va rire, mais qu'elle écoute ça. Et puis, c'est ça. Donc, l'investissement de la parole, garder les yeux fixés sur l'éternité, c'est ça. C'est de se dire que tout ce qu'on voit, là, ça va tout passer. Ça va tout passer, ça. Il n'y a rien qui va rester. Tout ce que tu vois ici, la seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Puis nos âmes. Nos corps ne resteront pas. Même nos corps, nos tentes, hein, on va déposer nos tentes. C'est ça que Paul dit. L'heure approche où je devrais déposer ma tente. C'est ça, parce qu'on est des visiteurs. Ici, dans ce monde-là. Amen. C'est un autre message qu'on vient de recevoir. Et puis, on est étrangers sur cette terre, qui est ce monde qui n'est pas le nôtre. Hein? Nous, maintenant, on est nés de nouveau dans le royaume. Nous, on est nés où? Dans le royaume. Hein? Quand on s'en dit « nés de nouveau », moi, mais je suis né où? Dans le royaume de Dieu. Je suis devenu un fils, une fille de Dieu, un enfant de Dieu. Donc, je suis né dans le royaume de Dieu. Et puis, à partir de ce moment-là, toute notre perspective change. Toutes les choses qui sont dans ce monde-là, là, pour nous autres, là, l'argent puis ces affaires-là, c'est tout inutile. C'est correct de vivre avec ça parce que, bon, c'est le monde est comme ça puis on doit, tu sais, c'est correct de l'avoir pour vivre, c'est correct de s'en servir pour vivre parce que Dieu nous en donne pour s'en servir. Mais ce qui n'est pas correct, c'est que ça devient notre priorité. Ça devient notre idole. Hein? Ça devient une idole. L'argent devient une idole. Puis là, tout ce que je fais, la Bible nous parle de ça souvent, tout ce que je fais, c'est en fonction de d'aller chercher plus d'argent. Et le Seigneur, il dit à celui, hein, quand il donne la parabole de la récolte, là, quand le gars, il a une grosse récolte, puis il dit, ah, la récolte est bonne cette année, je vais abattre mes greniers, puis je vais en faire des plus grands. Hein, parce qu'il n'avait pas assez. Le Seigneur, il dit, insensé. Aujourd'hui même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Puis qu'est-ce que tu auras à donner? Les champs vont rester ici. Hein? Les récoltes vont rester ici. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est de garder les yeux fixés dans l'éternité. Notre perspective dans l'éternité. C'est pour ça qu'on étudie la parole, puis on étudie toutes les paroles, sont bonnes étudiants. Il y a des enseignements extraordinaires dans tous les livres. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Puis il nous fait comprendre des paroles que n'importe qui pourrait lire, mais ne comprendrait pas. Les gens qui lisent la Bible, ils lisent des mots écrits sur du papier. Mais quand que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est comme qui vient éclairer avec le chandelier, hein, dans la tente d'assignation, le chandelier brûlait tout le temps. Et puis, ça le signe que le Saint-Esprit vient éclairer notre parole. Puis, Paul, il dit que cette parole-là, elle reflète sur nous comme dans un miroir. Hein? Et puis, quand tu regardes la parole, c'est la gloire de Dieu qui vient refléter sur toi parce que tu t'approches d'un cœur pur et parce que le Saint-Esprit t'enseigne. Donc, le Saint-Esprit te donne une compréhension que le monde ne comprend pas aujourd'hui. D'ailleurs, personne ne comprend ça, la Bible. Tout le monde trouve ça épouvantable, tu sais, puis ça n'a pas d'allure de suivre ça, puis tu sais, ils ne comprennent rien. Mais la Bible nous dit que la parole et la prédication de l'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Hein, c'est une grâce pour ceux qui sont sauvés. On va aller lire. C'est important, ça. C'est dans 1 Corinthiens 1,18. Ce verset-là, si je me souviens bien. 1 Corinthiens. Non, Nicole, c'est pas le même livre, là. Non, c'est pas Proverbe. Il me semble que c'est ça. Car la prédication de la croix, hein, c'est ça, la prédication de l'Évangile, c'est Christ est mort pour nous, sur la croix. Pour, bon, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Hein? Ben, c'est de même. C'est pour ça que les gens, quand tu lui parles de ça, là, les gens qui sont dans le monde, là, qui ne sont pas dans l'enseignement, ben, c'est une folie pour eux autres. Là. On est fous là, de suivre ça. C'est une folie pour ceux qui périssent, la parole dit. Mais ben, si tu trouves ça une folie, peut-être que tu es en train de périr. Ah. Mais ça dit pour ceux qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance pour leur vie. C'est une puissance pour nos vies. La croix. Hein? C'est la croix qui a été portée à nos comptes. C'est une puissance incroyable pour nous autres. Parce qu'on est, ça nous a donné l'occasion de devenir des enfants de Dieu. Des princes, des princesses. Des gens qui vont vivre éternellement. Ça dit des gens qui vont régner avec Christ pendant le millénium. C'est ça que la Bible nous dit. Des rois et des sacrificateurs. C'est ça qu'on va dire. Des saints. Hein, la Bible dit que c'est saint. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu es né de nouveau, tu es saint. Tu n'as pas besoin d'avoir fait un miracle comme l'Église catholique a dit. Là, j'enlève rien. Je ne peux pas enlever rien aux religions. Mais c'est pour dire comment on comprend pas la parole. La parole, c'est pas ça qu'elle dit. Tu n'as pas besoin d'être mort, premièrement. Deuxièmement, tu n'as pas besoin d'avoir fait un miracle puis pour avoir être nommé saint. Là, tu sais. Ça, c'est des histoires de religion. Hein? Ce n'est pas des histoires de la Bible. Tous les hommes ont des religions sur la terre. Tous les peuples en ont. Mais de quelle religion est Dieu? Un Dieu, par exemple? Hey, il va falloir que... C'est bizarre, hein? Les religions, c'est des affaires d'hommes, ça. C'est pas des affaires de Dieu. Hein? C'est des affaires d'hommes. Donc, oui, nous allons continuer avec la puissance de Dieu. Hein? La croix, c'est une puissance pour nous autres. Et puis, oui, on continue d'étudier la parole. Excusez si je vais faire un petit... Mais je trouve ça épouvantable. Tu sais, un homme, supposément un homme de Dieu, un homme qui enseigne, qui dit ça. Là. Ils disent l'Ancien Testament, c'est plus bon. Là. J'ai vu dire ça à un nouveau croyant. Mais tu dis le nouveau. Tu dis pas l'Ancien. C'est comme si tu dis, dans la Bible, il y a une parole de Dieu qui est pas bonne. Et faut pas craindre Dieu pour dire la fin de la main. Certainement que la parole de Dieu peut nous enseigner. Dans n'importe quel livre, on peut avoir des enseignements extraordinaires. Extraordinaires. Et puis, si on la comprendrait, on la comprend pas toute encore. Hein? Ça nous est révélé petit peu par petit peu, parce que si on plus qu'on étudie, plus qu'on se rend compte que c'est incroyablement bien fait au-dessus de tout ce qu'on a pensé. C'est tout interrelié, c'est tous les événements, c'est tout. C'est incroyable. Quand tu te mets à étudier les Écritures, c'est incroyable de voir comment Dieu avait tout prévu, qu'il avait tout planifié, tout que ça arrive comme lui avait décidé que ça arriverait. Donc c'est ça qu'on découvre quand on étudie la parole. Maintenant, retournons dans le livre des Proverbes. On va voir le texte qu'on avait vu ensemble au dernier partage. On fait toujours ça, petite révision. Et puis, on va continuer. On avait vu Proverbe 19, versets 11 à 20. Alors, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Puis quand on étudie la parole, on veut étudier ce que le Père nous dit à propos de la sagesse. Alors, on veut devenir des personnes plus sages. Hein? Selon ce que la parole dit. Ben, la parole dit, la deux premières affaires, si tu veux être qualifié de quelqu'un de sage, premièrement, un des traits de ta personnalité, c'est que tu serais lent à la colère. Et deuxièmement, tu serais quelqu'un qui oublierait les offenses. Qui s'appliquerait à oublier les offenses. Savez-vous à quoi ça me fait penser? Parce que c'est un esprit qui me fait penser. Quand Jésus il dit aux pharisiens, apprenez ce que ça veut dire faire miséricorde. Hein? C'est ça. Donc, c'est ça. Faire miséricorde, c'est pas donner aux autres ce qu'ils méritent. Donc, c'est ça. Oublier les offenses, hein? On pourrait-tu dire, c'est ça? Ben, c'est ça que Dieu nous demande de faire. Mais ça, vous savez qu'avec notre chair, on peut pas faire ça. Avec notre chair, là. On veut vraiment se venger. Hein? On n'est pas capable. Ça nous prend une provision divine. Ça nous prend la provision du... Parce que ce n'est pas un fruit de la chair. Ça, c'est un fruit de l'esprit. Donc, si c'est un fruit de l'esprit, il faut que le Saint-Esprit règne dans ma vie pour que je puisse avoir ce fruit-là au travers de ma vie. Je ne peux pas manifester les fruits de l'esprit tout seul. Hein? Je ne peux pas manifester les fruits de l'esprit. J'en ai aucune capacité. Je ne peux pas imiter ça avec ma chair, moi-là. C'est impossible. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse. À travers ma vie, quand j'ai réuni des conditions propices à ce que le Saint-Esprit règne, le Saint-Esprit te gêne de la main. Hein? Il va prendre la place et je lui donne. Si je ne lui donne pas, il ne prendra pas. Parce que j'ai été créé libre. Et ça, le Seigneur va toujours respecter notre libre arbitre. Donc, c'est un fruit de l'esprit. Ensuite, ça disait, la colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Le roi, c'est que lui, dans les Écritures, on peut considérer que le roi, c'est quelqu'un qui est en autorité sur nos vies. Ça peut être notre employeur. Ça peut être la police. Hein, Dieu dans les autorités. Les Écritures nous disent que c'est Dieu qui les a instaurées, les autorités. Donc, ça peut être le roi, ça peut être une personne qui est en autorité sur nos vies. Comme souvent, moi, je pense par ça, mon roi, c'est mon patron. Mon roi dans la vie de tous les jours, mon roi sur la terre. Je ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est le roi des rois. Mais je vous parle du roi dans lequel nous, on vit présentement. Dans ce monde, on a un roi. On a tous un roi. C'est le gouvernement, c'est la police, il y a des lois. T'sais. C'est le Seigneur qui les a établies, ces autorités-là. Fait qu'il a dit, soyez soumis aux autorités. Donc, c'est juste pour dire d'un fois, ah ben nous autres, on n'a plus de roi maintenant. Non, on a des rois. On a des rois, puis on peut l'appliquer. Moi, je compare souvent à mon employeur. Puis quand tu dis la colère du roi, c'est comme le rugissement d'un lion. Quand ton boss t'appelle et il est en fusil, là, c'est comme le rugissement d'un lion. Puis quand il n'est pas content, tu sais, il est arrivé quelque chose, puis il n'est pas content. Là. Mais ça dit aussi que sa faveur, c'est comme la rosée sur l'herbe. Hein, quand ton boss est content puis t'appelle, je suis bien content de ce que tu as fait là, puis ça, c'est le fun. T'sais. C'est de la reconnaissance. Un fils insensé est une calamité pour son père. Et les querelles, ils rentrent très fort, hein. Il est sur Nicole, elle flatte. Là, ils rentrent tellement fort, je l'entends jusqu'ici. Donc, j'avais campé sur celle-là un petit peu parce que. Et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Puis dans plusieurs écritures, puis là j'avais campé là-dessus un petit peu parce que, tu sais, on parlait des relations. Tu sais, il y a des gens qui vont se mettre en couple juste pour pas être seul, puis ils vont choisir n'importe quoi, puis ils attendront pas juste pas être seul. Puis je repartirai pas là-dessus, mais je vais donner des exemples. Finalement, puis la Bible nous dit là que si tu peux avoir une femme querelleuse, avoir une femme querelleuse pour un mari, là, c'est pareil comme être assis en dessous d'une dégouttière qui n'arrête jamais. Tu te dégoûtes sur la tête. Fait que tu vois-tu, là, c'est pour ça que tu ris, c'est pour ça que je riais aussi. Puis il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Oui, c'est ça, l'angle d'un toit, tu sais ce que ça veut dire? C'est deux toits qui se rejoignent de même. Les deux toits, l'eau du toit arrive, là. Les deux. Fait que la gouttière est grosse. Je vais te dire, c'est l'eau de deux toits qui se rejoint dans un V. Fait que là, la gouttière est encore plus grosse. Il dit, t'es mieux d'être assis là, tout le temps que t'es avec une femme querelleuse. Ouais. Fait que c'est, ça peut être un homme, là, tu sais. On dit une femme, mais l'inverse est aussi vrai, là. Mais c'est plus particulier, ça, je vous dirais. À des problèmes qu'on a vus au niveau des chrétiens qui c'est un truc vieux comme le monde que l'ennemi s'utilise pour amener le chrétien en dehors de son appel, hein? C'est un truc vieux comme le monde, tu sais, il présente un conjoint qui est pas la sienne, puis lui il tombe dans le panneau. Tu sais, quand on est en monde d'amour, on est en innocent, hein? On voit rien, puis là le v'là attaché, lié, puis capable de marcher dans son appel, puis capable de marcher dans l'appel que Dieu a placé, neutralisé. Truc vieux comme la terre, que l'ennemi utilise. C'est vrai, Très vrai, vaut mieux être seul que mal accompagné, que Lenzi. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. C'est pour ça que j'avais campé là-dessus, je vous dis, le conjoint, oui, vous pouvez en avoir un, mais ça doit être celui que Dieu a préparé pour vous autres. Pas ce que lui, que votre chair veut. Pas n'importe qui, là, le premier qui arrive, là. Non. Ça dit celui que Dieu a remis sur ton chemin. Et puis, comment on va faire pour le savoir? Inquiète-toi pas, tu vas le savoir. Calme-toi, là. Puis attends. Puis s'il n'y en a pas, c'est parce que t'as pas besoin d'en avoir. C'est tout. Sinon, ben, tu en paieras le prix. Tu en paieras le prix. Gardez des relations. Moi, j'en vois, là. Puis je me trouve béni d'être seul. Ah, je me trouve béni d'être seul puis de vraiment d'avoir ce bonheur-là quand même. Là. Mais cette liberté-là de pouvoir servir le Seigneur. Tu sais. Là, tu rencontres une femme, là, puis c'est pas celle que tu as. La première affaire qu'elle va faire, elle voudra plus que je fasse du partage. Hein? Elle ne voudra plus rien savoir de ça. Au début, elle va être bien fine. Même qu'elle s'est bien installée, tu vas voir. On va voir qu'elle va, elle va se mettre à... Bon, mais c'est ça?
C'est pas clair.
À moins que ça soit celle que Dieu... Même chrétienne. Moi, j'en ai conté des histoires au dernier partage. Là. Ça fait lever les cheveux là, sur la tête. Rien que pour te dire comment est-ce qu'on court après les relations, comment ça peut vraiment là, venir déformer notre discernement. Tu sais, quand on est en amour, on fait une petite sorte de niaiserie, hein? Fait qu'on a besoin de discernement, on a besoin de parler aux gens qui sont autour de nous autres, qui sont pas dans cette... qui sont capables de nous dire, « Hey, t'es-tu sûr que tu as une bonne affaire? » Puis là, il va pas parler contre elle ou contre lui. Parce que là, tu veux pas, hein? Tu veux pas, parce que là, toi, t'es comme aveuglé par tes sentiments humains. Fait que dans le fond, c'est ça. Là. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les relations, c'est très important. De ne pas s'investir dans n'importe quoi, de s'investir dans quelque chose, de demander toujours la provision divine. Puis Dieu, il est fidèle, hein? Il va nous le montrer. Il va nous montrer des affaires. Quand on y demande, il va nous montrer. Moi, j'ai eu la grâce que Dieu m'a montrée. C'est pas eu que j'ai des occasions. Je pense qu'on n'a jamais eu comme ça depuis que c'est le chauffeur, Hélène. J'ai jamais eu d'occasion comme ça depuis que je suis dans les chrétiens. Surtout quand je fréquentais des églises, parce qu'il m'a vous dire une affaire. Dans les églises, là. Il y en a plusieurs qui y vont pas mal juste pour ça. Trouver quelqu'un.
Oui.
Ben, ils sont chrétiens, puis ils veulent trouver un chrétien. Fait que, ils pêchent dans l'église. Ils pêchent, je veux dire, ils vont en pêche. Puis moi, je suis arrivé dans des églises, je me suis fait carrément sauter dessus. Là, je veux dire, une façon de parler. Là. Hey, ça chicanait quasiment. À force que c'était... Puis moi, j'ai toujours... La grâce que Dieu m'a faite, c'est toujours de me montrer ce que ma vie aurait pu avoir si j'aurais acquiescé à ça. Dieu m'a montré ce que ma vie aurait été. Fait que c'est important parce que c'est pour vous dire, hein, on est dans Waïbab, hein, noir. C'est ça. Donc, il est en arrière de toi, les Kleenex, Hélène. Donc, c'est ça, oui, j'en aurais eu des occasions. Puis tu sais, un homme seul, là, puis une femme seule, là. Si tu n'as pas la provision de Dieu, là, ce sera pas long que tu vas tomber.
Dans une église.
Dans une église ou dans n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'y a plus des grands mondes là, qui sont capables de rester sans avoir de relation puis sans avoir de relations sexuelles. Tout le monde trouve que c'est normal de l'avoir, puis tu sais, tout le monde non ensemble. Puis ils vivent dans le péché, puis c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut normaliser le péché. Hein? Il veut banaliser le péché. Ben l'homme, puis la femme aussi, Nicole. Parce que c'est des sentiments charnels. Mais ça, c'est des sentiments qui sont... C'est des relations qui sont... Ben, c'est pas que t'as pas envie, c'est que tu peux en avoir envie, mais tu sais que Dieu ne veut pas qu'on vive là-dedans. C'est ça. Dieu veut qu'on ait des relations dans l'honneur. Parce qu'on est des princes, des princesses. Non, je sais qu'on va pas à l'église pour pécher, mais tout le monde pense que... Tout le monde veut tellement pas finir leur vie tout seul... que n'importe quoi, là. Ils vont essayer n'importe quoi, puis là, ils vont de catastrophe en catastrophe. Puis il y a des gens, des fois, qui, malgré ces catastrophes-là, que les gens abandonnent la foi, là. Moi, j'ai vu des loups sauter sur des jeunes filles de 18 ans, des hommes de proche 40 ans. La jeune fille, là, elle venait d'être au Seigneur, puis là, hey, elle a tombé, bien raide. Tu sais, il y en a qui ont le tour, hein, plus que les autres. C'est des loups, déguisés en brebis. Donc, ils chantent, puis tu sais, puis il y a du caresse, puis Mais cette personne-là, elle se promène d'église en église, puis elle les fait. Elle fait jeune fille, puis elle fait ce qu'il fait, ce que tout ce qu'il dit oui. C'est des loups. Mais la jeune fille, elle n'est jamais revenue à l'église. Parce que, elle, dans sa tête, ça se peut pas que je me sois fait faire ça dans une église. Elle, dans sa tête, là, c'était vrai, cette relation-là. Lui, il voulait juste coucher avec. Ah oui? Ah oui. Oui, oui, oui. Oh oui, puis tu le connais très bien. À part de ça. Et puis, c'est ça. Fait que les relations, aujourd'hui, je vous le dis, la Bible nous prévient à plusieurs endroits. Regarde, la gouttière sans fin. Là. Puis Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, je voudrais tant vous éviter ces tribulations. C'est un truc vieux comme le monde que l'ennemi utilise pour nous faire des interférences dans nos vies. Paul, il dit, si tu es tout seul, tu vas servir Dieu premièrement. Mais si tu es avec quelqu'un, tu vas servir ton conjoint premièrement. Après ça, tu vas servir Dieu. Si elle est consacrée à Dieu, évidemment. Mais il dit, il vaut mieux te marier que de périr, que de vivre dans le péché, tu sais. Si t'es pas capable, marie-toi. Mais non, et voilà, tu as tout compris. Donc, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ça veut dire, attends le conjoint que Dieu a préparé pour toi. Dieu a préparé une personne pour toi. Peut-être qu'il n'a pas. Peut-être qu'il t'a donné le... Tu sais, c'est un appel, ça. Être unique pour le Seigneur. Appelle ça un eunuque. Un eunuque, c'est pour servir le Seigneur. Puis sa vie est consacrée pour servir le Seigneur. Et puis, c'est une priorité qu'on met dans nos vies pour servir Dieu au lieu de vouloir nourrir notre chair. Puis d'aller dans des relations. Mais nous autres, on regarde la récompense. Hein, à l'éternité. Dans le fond, on est des opportunistes. Donc, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Ça veut dire que si je suis paresseux, tu sais, tu ne verras pas grand-chose de ta vie, tu es paresseux. Toi, t'es morphe, tu sais, toi, t'es morphe. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. L'âme nonchalante, c'est l'âme qui est pas, qui n'a pas comme priorité. Vous savez que notre âme, c'est nous qui en est responsable. Comme c'est l'eau, notre âme est portée vers les choses du monde. Hein? Elle veut, mon âme est attachée à la terre, hein, que David dit. Mais c'est à nous de dire, mon âme, loue le Seigneur. De diriger ton âme vers le Seigneur. Pour qu'elle soit rassasiée, qu'elle soit nourrie de ce que Dieu avait prévu qu'elle soit nourrie. Si tu nourris ton âme, si tu connectes ton âme dans la fosse sceptique du diable, pense pas que ça va aller bien. Ça ira pas bien. Mais toi, tu as la responsabilité de connecter ton âme sur le Seigneur. Si la Bible nous dit que l'âme nonchalante éprouve la faim, ça veut dire qu'elle ne sera pas rassasiée. Elle ne sera pas satisfaite. Elle n'aura pas la paix de Dieu. Elle n'aura pas la joie du Seigneur. Elle va éprouver la faim. Elle va toujours être en demande de quelque chose. Elle va toujours y manquer quelque chose. Donc, c'est pour ça que nous, on se doit de diriger notre âme dans la parole. Mais on ne veut jamais y aller. Hein? Notre corps, il ne veut jamais y aller. Pas le temps pour la parole. Pas le temps. Toujours de quoi faire. Hein? Faut toujours nous autres dire non, là, ce temps-là, on va le prendre pour la parole. C'est nous autres qu'il faut qu'il. C'est comme prier. Hein? C'est nous autres, faut dire là, on va prier, là. Il faut se l'imposer. Il soyez, rendez-vous maître de vos membres et aussi de votre âme. C'est ça qu'on découvre hein, quand on étudie la parole. C'est qu'on a une responsabilité de se rendre maître de nos corps, des membres de nos corps, que Paul dit, mais se rendre aussi responsable de ce qui nourrit mon âme. Hein, les portes, les oreilles, la bouche, le cœur, les gardiens, on va mettre des gardiens. Donc, c'est ça qu'on découvre en étudiant la parole. On n'enseigne pas ça, on n'entend pas ça, là, enseigner, là, tu sais. Mais c'est ça que la parole nous dit. Puis, c'est primordial dans la vie dans notre vie chrétienne. Celui qui garde ce qui est commandé, garde son âme. Dans l'original, ça veut dire garde les commandements du Seigneur. Garde les préceptes de Dieu. Celui qui marche dans les préceptes de Dieu, ben, il garde son âme. Ça revient à ce que je vous disais. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Quand tu donnes au pauvre, c'est l'Éternel tu prêtes. Celui qui ne veille pas, celui qui lui rendra selon son œuvre. Le Seigneur, en plus, m'a t'elle rendre au centuple. Dans la parole, Jésus dit au centuple, dans cette vie même. À part de l'éternité. Châtie ton fils car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Et châtie-le, mais là, tu ne l'es pas. Là. Ça. Mais ça dit de reprendre nos enfants. Aujourd'hui, hey, ils ont des droits. La DPJ, je vais appeler la DPJ. Mais la Bible nous dit de corriger nos enfants. De les enseigner puis de les corriger. Parce qu'on a cette responsabilité-là en tant que parents. Tu vas aller faire ce qu'ils veulent, là. Ils vont faire quoi plus tard? Les bombes. Celui que la colère emporte doit en subir la peine. Si tu te mets en colère, ben, tu vas en subir la peine, hein. Tu vas payer pour. Car si tu le libères, tu devrais y revenir. T'as beau te mettre en colère, il va falloir que tu reviennes là-dessus. Hein. Tu pourras pas. Écoute les conseils. Ça, c'était le titre du partage. Écoute les conseils et reçois l'instruction de la parole. Afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Ben oui, on a vu ça dans notre étude. Éloigne-toi de ça. C'est de la chienne, non? Moi, je ne me chicane pas. OK, on était rendu au verset 20. Mais là, avec mon placotage, je suis rendu à 33 minutes. Fait qu'on a fait comme une révision la semaine passée. Mais on va voir si je pourrais faire quelques versets. Ben, on va faire le verset 21 pour terminer. Ben, il y en a 31 chapitres. Un par jour. Chaque jour du mois. Hein, il y a des gens qui font ça. Ils lisent un chapitre par jour. 31 jours dans le mois. c'est un truc, hein? Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis ça, ben, vous savez, là, on va terminer là-dessus. On a parlé souvent, on va en parler encore. J'ai parlé des outils, hein, à batterie. Vous vous souvenez que j'ai parlé de ça? Tu sais, quand on commence dans la vie chrétienne, là, on veut-tu en faire pour le Seigneur? Hein? On veut courir pour le Seigneur. Mais la parole à ce qu'elle nous enseigne. C'est quand tu nais de nouveau, il y a un dépouillement qu'il faut qu'il se fasse. Il y a une mort. On appelle ça mourir à soi-même. Et puis, faut que ça dit que je suis été crucifié avec Christ. Tu sais, quand le Seigneur dit, prends ta croix, tu veux me suivre, mais prends ta croix. Puis suis-moi. Il faut que tu sois mort à ce monde ici. À tout ce que ce monde veut t'offrir. Tu sois prêt à lui dire non. À tout ce que tu possèdes aussi. C'est ça qu'il dit. Il n'y a pas beaucoup de riches qui vont. C'est ça. Être disciple, c'est ça. Donc, une des premières choses qu'on doit apprendre dans la vie chrétienne, ça, c'est contraire à nous autres. Hein? Parce que nous autres, avec notre bon vouloir, on veut servir Dieu. Mais Dieu, il dit, pose-toi, avec la nature que tu as reçue, tu ne peux pas rien faire de bon pour moi. Il n'y a rien que tu vas faire de bon pour moi. Puis tu dois commencer par prendre conscience de la nature déchue que tu as reçue de ton père charnel, de ta chair à ta chair. Cette chair-là, elle doit mourir. Pour que je puisse revêtir l'homme nouveau, un nouvel homme. C'est ça. Fait qu'il y a un bout qu'il faut qu'il meure. Et ça s'appelle ça le processus de sanctification. Ça ne se fait pas jour 1 puis jour 2, c'est fini, là. Hein? C'est un processus qui dure long. Puis ça, c'est en développant une relation avec le Seigneur. Fait que le défaut qu'on a, les nouveaux chrétiens, c'est toujours la même chose. On veut courir, puis on veut un enfer. Mais là, au lieu d'aider le Seigneur, on détruit dans sa maison. On fait des trous dans ses murs. Hein? Nos outils, ils font des traitis n'importe. Parce qu'ils marchent avec la batterie. Mais l'énergie, là, ça doit pas venir de la chair, elle doit venir de Dieu. Puis là, je peux devenir un serviteur. Quand j'ai accepté de mourir à tout ce qu'il y avait dans ce monde-là, puis de servir Dieu, maintenant je peux servir Dieu, pas ma chair. Je ne veux pas servir Dieu pour montrer que je suis bon, ou pour ma satisfaction personnelle, pour me sentir bon, tu sais, pour ma reconnaissance. Il y en a qui font ça pour être... ouais. C'est la gloire personnelle, finalement. Là. Mais l'homme est toujours comme ça. Il veut s'approprier la gloire. Mais la gloire, elle doit être à Dieu tout le temps. Et puis ça, c'est quand on doit apprendre à devenir des serviteurs. Et puis ça, ben, ça se fait en développant une relation personnelle. Puis ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour que Dieu nous façonne. Hein, le potier. Il nous façonne en dehors, il nous façonne en dedans aussi. Hein? Enlever les petites bosses. Ben, c'est ça. Et puis, ce verset-là, ben, ça nous dit qu'on a beaucoup de projets. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Et il y en a tellement qu'il n'y a pas de place, celui de Dieu. Hein? Il faudrait qu'il y ait moins, un petit peu de projets dans nos cœurs pour qu'on puisse être des serviteurs. Hein? Des gens qui vont servir dans le royaume. Des gens qui vont... Ben là, c'est parce que la chair, tu sais... Dieu, il peut pas t'utiliser parce que tu as toujours un projet. Un projet. Puis là, c'est toujours pour une bonne raison, pour servir le Seigneur, là. On prend Dieu par la main aujourd'hui. Puis on dit, viens Seigneur, on m'a fait ça pour toi, on m'a fait ça pour toi, on m'a fait ça pour toi. Pauvre toi, tu peux rien faire pour moi, toi. La seule chose que tu peux faire pour Dieu, c'est mourir. Mourir à tes ambitions, à tes passions, à toutes tes choses, tes convoitises de la chair. Ta chair, il faut qu'elle meure pour que tu puisses devenir un serviteur. Ça, ben, ça s'appelle le processus de sanctification. Ben, c'est un processus qui est plus ou moins long selon... ouais, là, c'est moins le fun d'être chrétien. Tu sais, quand là, ils se mettent à... Tu sais, puis c'est pas populaire. Hein. Tu sais, quand tu vas prêcher ça, là, c'est pas populaire, ça, là. Hein. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, prends ta croix. Qu'est-ce qu'il a dit au jeune homme riche? Quand il a dit, là, faut les commandements, j'ai fait tout. T'as ça à la coche, ce gars-là. Tu comprends? Moi, je me contrôle. Je suis quand même. Il dit, OK. Il savait, là, c'était quoi le trouble de ce gars-là. Il dit, vends tout ce que t'as. Il dit, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Wow! Non. Je ne ferais pas ça, fait qu'il n'était pas prêt à servir Dieu. Ouais. Mais il est parti, hein? Non, il n'était pas prêt. Ben, c'est ça. C'est ça la différence. Ben, c'est pour ça que Dieu dit que ça va être très difficile pour des personnes qui sont riches. Tu sais, toi, Hélène, je ne sais pas parce que je veux te porter un jugement, mais tu n'as pas beaucoup de bien dans ce monde. Puis tu n'en veux pas. Mais si tu en aurais beaucoup, tu sais, si tu en aurais beaucoup, ce serait-tu la même chose? Mettons que tu aurais. Oui, je suis sûr qu'elle en donnerait. Mais tu sais, aujourd'hui, parce que tu as l'expérience, mais c'est une bénédiction. Toi, tu peux dire merci que tu n'as pas gros. Parce que, puis moi, je dis merci aussi au Seigneur parce que moi, je suis prêt à m'en aller. Tu sais, fait que il n'y a plus rien qui me retenait. Ça me dérange plus. Fait que ça, je suis prêt déjà à tout abandonner ça. C'est pour ça que c'était facile pour moi de me convertir au Seigneur puis de suivre le Seigneur après. Tu sais? J'étais prêt à abandonner tout ça, puis à mourir quand je me suis converti. Donc, c'est ça que le Seigneur cherche, les serviteurs qui sont prêts à tout abandonner. Mais on vous dit, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup. Les gens qui sont nés nouveaux dans le royaume, ça prend, il faut que tu sois prêt à... Quand tu dis que tu reçois le Seigneur Jésus, là, c'est pas une joke, ça. Tu peux lire une prière sans papier. Là. Ça ne peut pas dire que tu es sauvé, ça. Tu peux rencontrer une gang qui évangélise sur le coin de la rue, là, puis tu lis ça, tu vas être sauvé. Oh, attends un petit peu. La Bible, c'est pas ça qu'elle dit. La Bible a dit que tu dois l'accepter comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Comme Seigneur et comme sauveur. Que tu dois tout abandonner. Que tu sois prêt, c'est-à-dire que c'est pas vrai que tu peux pas être sauvé. Tu peux être sauvé, mais après ça, il y a des récompenses. Tu sais, il y a des... Tu peux te sauver puis garder ta vie ici, mais t'arrives de l'autre bord, tu vas être un spectateur, là. Tu sais? Puis tu vas avoir une vie chrétienne exécrable. Tu n'auras pas une vie parce que tu as choisi de garder ta vie. Et c'est, tu sais, garder tes petites affaires. Je vais aller à l'église pas trop souvent. Je vais donner ma dîme, mais tu sais, tu comprends? Pas prêt à tout abandonner. Mais le Seigneur, il dit, si tu veux vraiment expérimenter la puissance de Dieu, ben, tu dois mourir. Tu vas continuer à courir après les choses. Ben, sans courir après, c'est ne pas les abandonner. Pas prêt à les abandonner. Fait que ça, c'est une bénédiction, nous autres. Parce que toi, comme tu dis, je suis très démuni, je n'ai rien. Nicole, c'est pareil. Puis moi, ben, genre... Non, non, mais t'es riche, là. Mais je veux dire, dans ce monde. Tu sais, on n'est pas des gens qui sont... c'est pas une malédiction de n'avoir. Hein? Parce que quand on écrit, quand on étudie les Écritures, tous les hommes de Dieu ont été très, très prospères. Très prospères. Abraham, Jacob, tous ces gens-là ont été très prospères. C'est pas une bénédiction de n'avoir. C'est pas une malédiction, pardon, de n'avoir. C'est ce qui est une malédiction, c'est que je les mette en premier. Ça, c'est une malédiction. Si je m'en sers, puis Dieu le met à ma disposition, puis je continue de servir Dieu, c'est ça qui va arriver de toute façon. Dieu, quand je décide de servir, il s'est dit qu'il s'occupe de tout le reste, y compris tout ce que tu as besoin. Hein? Puis ne vous inquiétez de rien. Donc, c'est juste, il faut faire la part des choses, c'est quand est-ce que la bénédiction devient plus importante que le Seigneur. Il y a une histoire dans la Bible qui nous parle de ça, hein? Jacob. Jacob et Ésaü. Jacob, ça, c'était béni-moi. Tu sais, quand il priait, béni-moi, Seigneur, béni-moi, moi, te construis un autel. Béni. Lui, c'était la bénédiction qu'il voulait. Et c'était Jacob, ça veut dire un usurpateur, hein? Un manipulateur. Mais tôt ou tard, il a rencontré Dieu. Hein? Il est tombé tout seul. Puis tôt ou tard, on va tomber tout seul face à face avec Dieu quand que. Puis Dieu va venir mettre le doigt sur ce qui ne marche pas. Jacob, là, il s'est battu, hein, une nuit contre le Seigneur. Oui. Lui, c'était la bénédiction. Puis il était très béni, Jacob. Là. Il y avait des peuples, des troupeaux, ta famille. Il était très béni. Mais son frère, il avait dit, je vais te tuer. Il avait usurpé la bénédiction de son père. C'était fait passer pour Ésaü. Quand son père était mourant. Son père, il a béni Jacob, pensant que c'est Ésaü. Jacob, ça veut dire un usurpateur, son nom. Fait que lui, il s'est béni, béni, hein? C'est ça. Puis après ça, il priait, bénis-moi, bénis-moi. Si tu me bénis, si tu me bénis, tu sais, il priait le Seigneur. Puis il l'avait rencontré, le Seigneur. Il y avait eu un songe, l'échelle qui montait, là. Puis il montrait, puis il y avait des âmes qui allaient dans le ciel. Puis il redescendait sur la terre, il voyait des âmes s'en aller au ciel. Il y avait eu une touche du Seigneur. Mais lui, c'est la bénédiction. Fait qu'à un moment donné, il est tombé tout seul. Tombé dos au mur, puis il a fallu qu'il rencontre le Seigneur. Puis il a boité à partir de ce moment-là. Oui, bien, c'est ça. Fait que ça, c'est ça. C'est pas. Pour revenir à notre verset 21, ça m'a amené à vous parler de ça, par la grâce de Dieu. Donc, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Pourquoi pas j'abandonnerais mes projets et je demanderais tout de suite c'est quoi le dessein de l'Éternel? Hein? Ça irait plus vite? Ouais, on va méditer là-dessus. On va prier. On va remettre ça au Seigneur. On va terminer là-dessus. Ben, Père, on veut dire merci pour ce message ce soir. Merci pour ces paroles que tu nous donnes. Merci, Seigneur, de faire ces choses dans nos cœurs, d'enlever les choses qui sont mauvaises dans nos cœurs, de les remplacer par ta portion. Et Seigneur, on te prie ces choses pour que le nom de Jésus soit glorifié à travers nos vies, Père. Pour qu'on puisse être le sel et la lumière, des ambassadeurs de Christ, Seigneur. Des vases utiles dans ta maison, des serviteurs utiles, Seigneur. Qui puissent travailler à ton royaume, Seigneur, autour de nous. Et puis on te prie pour que tu fasses de nous ce que ton cœur voudra, Seigneur, ta volonté soit accomplie dans nos vies, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Merci beaucoup et bonne semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.